Salut à tous! Aujourd'hui, je suis en compagnie du papa du gros hacking, Frédéric Canvet, qui est ici. Donc, si vous ne le connaissez pas, peut-être que vous connaissez son site parce qu'il est très très regardé, c'est conseilmarketing.com. Et peut-être que vous avez vu passer certains éléments, certains articles ou même éventuellement certains passages de son livre, qu'on va évoquer ensemble justement d'ici quelques minutes, parce que je lui ai proposé de venir interagir ici aujourd'hui dans notre chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, pour évoquer le gros hacking en 2026 et l'intégration de l'IA dans tous ces éléments, puisque aujourd'hui on ne peut pas faire sans. Donc on va avoir un échange, je suis sûr, passionnant pendant une petite trentaine de minutes autour justement de ces problématiques et du fait que bah, forcément, puisqu'il a plein de choses qui nous permettent de nous rendre compte que le gros hacking évolue, il va nous faire parvenir un petit peu tous ses secrets. Générique. Alors, première petite question, justement, pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que cette notion de gros hacking et d'intégration, on va dire, de l'IA aujourd'hui dans les mesures. Est-ce que tu peux me redonner une petite définition du gros hacking selon ta propre définition, parce qu'il y en a plusieurs qui existent?
Alors, pour moi, j'ai une définition qui est extrêmement simple, c'est l'efficacité maximale. Parce qu'en fait, le gros hacking, c'est pas nouveau. Je pense que la plupart des gens en font depuis des années, sans savoir ce que c'est du gros hacking. Et en fait, moi, à chaque fois, je me disais, mais comment je peux faire le maximum, avoir le maximum d'impact avec le minimum de moyens? Et ça, en fait, pendant de nombreuses années, c'était ça que tout le monde faisait. Et après, on dit, hey, mais ça, c'est du gros hacking. Et donc voilà, en un seul mot, c'est ça. Et c'est se dire comment, avec un minimum de moyens, je vais avoir un minimum d'impact. C'est le guerrier roux du marketing. C'est-à-dire que tu vas pas venir avec la grosse armée, le gros canon, mais tu vas venir avec un arsenal très léger, faire un maximum de dégâts et avoir un maximum d'impact avec minimum de choses. Alors là, ça c'est ma philosophie à moi. Si on revient sur le terme growth hacking, eh ben en fait, moi je mettrais d'un côté growth, qui est la partie véritablement structuration de l'activité, où on va identifier le point faible du parcours client. Donc en fait, est-ce que c'est la conversion? Est-ce que c'est l'augmentation du panier moyen ou des choses comme ça? Et ensuite, il y a hacking, qui est souvent le truc qui est le plus retenu, c'est qu'est-ce que je peux faire pour générer plus de prospects? Et cette partie-là, pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg, et pourtant c'est la moins importante, parce que tu auras beau faire des coups, utiliser des techniques, manipuler l'algorithme ou faire des choses comme ça, si tu n'as pas structuré correctement ton business, tu vas faire des petites pics de croissance. Mais au final, tu vas pas avoir une croissance sur le long terme. Et c'est pour ça que souvent, dans le gros hacking, au départ, tu vas commencer par travailler bien ton persona, qu'est-ce que tu veux, la killer feature, c'est-à-dire la fonctionnalité la plus importante que tu dois mettre en avant et pas rajouter des tonnes de factures, et travailler sur son prototype. Alors, à chaque fois, on parlera de terme anglais MVP, Minimal Viable Product, en tout cas, ton prototype qui va permettre, en fait, de tester ton produit sur le marché, parce que c'est ça qui est le plus important. Même, tu vois, là, je sors un
Moi, je
bouquin.
trouve que
Ouais, vas-y, stop.
oui, justement, on va en parler de ton bouquin dans pas longtemps, mais pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça hyper important de dire que c'est un élément de plus, mais que s'il n'y a pas les fondations au départ, c'est compliqué de faire marcher une stratégie de gros hacking. Et ça, c'est les gens l'oublient en fait. Il y en a qui vont direct là-dessus, et des fois, tu te dis, mais en fait, il manque tel truc, il manque tel élément, et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, tu vois, c'est.
Bah ouais, et je l'ai eu il y a pas encore très longtemps. Toi, j'ai participé à un sommet avec en tout cas une dizaine de marketeurs. Et donc c'était une fille que je connais bien qui organisait un sommet, et c'était la troisième fois que je participais. Et donc bien sûr, quand tu fais un sommet, tu dis bah toi tu fais la promo en échange de cette visibilité, bah, comme d'habitude je fais. Puis j'envoie un petit email et elle me dit ah je suis déçu, il y a pas trop d'inscrits, etc. Je dis tiens c'est marrant par rapport à l'année dernière. Et j'ai dit mais fais voir un petit peu ta page d'inscription. Et je vois la page d'inscription, en fait, elle avait, pour faire du tracking, parce qu'elle voulait faire de l'affiliation, du machin, du bidule, elle avait utilisé, je crois que c'est Thrivecart ou un truc comme ça, et dans l'inscription, il y avait marqué mettre dans le panier. Mais attends, tu mets pas dans le panier quand tu t'inscris à un webinaire. Et je dis, mais change ça tout de suite. C'est pas étonnant que les gens ne s'inscrivent pas. Déjà, tu as ce bouton mettre dans le panier qui fait très bizarre quand c'est gratuit. Ensuite, tu avais une photo de l'intervenant avec le titre de la conférence, mais rien de plus. Je dis, mais fais un petit travail là-dessus. Et donc, elle a fait un petit boulot, elle a travaillé un peu plus sur les descriptions, etc. Et tout de suite, le taux de conversion s'est
Ça a remarché,
envolé.
mais oui, c'est sûr.
C'était trop tard, enfin trop tard. La plupart des efforts d'inscription avaient été faits. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur cette conversion, parce que si tu dois faire deux fois plus d'efforts pour générer du prospect avec des campagnes omnicanal, etc., ou alors si tu te dis, ben, je vais passer juste 1 heure à améliorer ci, améliorer ça, et ben, ça change toute la donne. Et tu vois, cette année, nous, on organise chez Locan ce qu'on appelle le CX Summit. C'est un sommet un petit peu comme je t'ai parlé il y a quelques minutes là. Une journée où on a à peu près 8 conférences. Et c'est vrai que cette année, bah on fait comme d'habitude, les 1 100 inscrits. Mais chaque année, on doit se remettre en question. Cette année, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a des moindres performances en emailing. Et au contraire, ce qui a cartonné, c'est LinkedIn. On a fait, je pense, 25 ou 30% max d'inscrits via LinkedIn. Alors, pas les publications, ça ramène rien du tout. Mais les direct messages, la gestion des comptes par les commerciaux, etc., etc. Et là, ça a cartonné. Et pourtant, tu vois, c'est pas encore parfait. Parce que là, on a vu qu'on a un taux de personnes qui vont sur le site, parce qu'on a un mini-site dédié, hein, on a un mini-site dédié qui est joli, etc. Mais en fait, on se rend compte que malgré qu'on envoie les gens sur la page d'inscription, malgré que le mini-site est dédié, on a trop peu de personnes qui s'inscrivent. Donc, l'objectif de l'année prochaine, ça va être de tester. Bah, des A/B testing de landing page, voir avec toi Hotjar ce que font les gens exactement, parce que c'est pas normal d'avoir tellement de gens qui visitent et très peu de gens qui s'inscrivent. Surtout que bah,
Non,
par
c'est vrai.
exemple, un tips qu'on a mis en place il y a 2-3 ans, c'est mettre un bouton systématiquement, je veux le replay dans tous nos emailings. Et ça génère 15, 17 d'inscrits en plus à chaque fois. Tous les gens qui ont un seul bouton, je m'inscris, je leur dis, mais mec, tu es en train de perdre 15% de tes inscrits, enfin 15%, 15.
Il y a beaucoup de tests à faire. C'est vrai que là, c'est vraiment sur la réflexion derrière l'intention utilisateur. Et là-dessus, moi, c'est vrai que je benchmark. Je regarde comment les autres font. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ça serait bien sur une landing page? Parce que nous, on l'a testé ou on l'a pas testé. C'est bien de faire la différence. Toi, effectivement, tu utilises des pratiques de test A/B qui sont extrêmement importantes en conversion. Mais c'est vrai que ça demande une logistique et un effort d'utiliser ces logiques de test A/B qui demandent quand même du flux. Un travail et voilà, tout le monde va pas toujours pouvoir le faire donc.
Landing page, je suis d'accord avec toi, c'est comme un gros effort à faire. Faut utiliser des outils. Par contre, l'A/B testing, tu le fais en emailing, en testant deux objets, en testant
Oui.
deux corps ou des choses comme ça. C'est quand même vraiment beaucoup beaucoup plus simple. Après, tu peux le faire bah, sur des titres d'articles de blog. Maintenant, ça a quand même beaucoup beaucoup moins d'importance. Tu peux le faire sur des noms de produits, etc.
Les vignettes et les titres YouTube maintenant aussi.
Tu peux le faire.
On
Oui, c'est en
a plein de
automatique.
trucs.
Ouais. Et mais
Ouais,
là,
c'est
ce qui
vrai.
nous aide vraiment beaucoup, je trouve, c'est l'intelligence artificielle. Tu vois, autant il y a quelques années, c'est vrai que c'était compliqué d'aller sur de la créativité pour chercher des titres, pour chercher des objets, pour chercher des différents designs. Et c'est vrai que maintenant, l'IA te permet vraiment d'avoir une meilleure créativité. Et moi, je le vois. Tu vois, par exemple, là, je te parlais du bouquin que je suis en train d'écrire. Je l'ai refilé à Claude en disant, bon, allez, dis-moi ce que je dois améliorer. Alors, je ne l'ai pas donné à ChatGPT. Généralement, je donne aux deux, je t'expliquerai après pourquoi. Mais donc, j'essaye véritablement d'avoir un point de vue externe. Parce que l'IA...
Ah, ton chat GPT est biaisé, ben oui, depuis le temps que tu bosses avec, c'est possible
Ouais,
que.
puis même, je trouve que alors, ChatGPT pour l'analyse de gros documents, par exemple, tu vois, un autre exemple, j'ai fait une formation sur l'IA l'emailing. Donc, c'était une petite matinale tranquille sur des débutants, etc. Et j'ai envoyé mon support de cours à à Claude et à Gemini, parce que je trouve qu'ils sont meilleurs sur l'analyse globale. Et donc, en fait, ils m'ont fait tous les deux une même suggestion, même niveau. Oui, tu as mis au départ tout ce qui est partie délivrabilité, c'est un peu technique pour des débutants parce que c'était la cible créateur d'entreprise. Ils m'ont dit, mets-le à la fin. Par contre, on voit bien la différence entre Claude et Gemini. Gemini, en fait, fait une analyse globale du document, plutôt macro. Il va te chercher, en fait, le sens, etc. Tandis que Claude va partie par partie.
Gemini has
C'est
been
pas la
multimodal
même
since
manière
recently.
d'analyser
Gemini
quand
Remote
moi je fais une
succeeds
analyse
here,
de
understand
documents
vast amounts of information,
ou
and easily
de
generate
PowerPoint,
cross-modalities.
de
Gemini
choses
2 took
comme
the
qui
next
sont
step with
assez
advanced
cossues.
reasoning, enabling
Moi, je
AI agents
recommande
to
de
think,
passer par les
code,
deux
and take
parce
action.
que le
We're taking
résultat
all
est
of this to
pas
the next level with
tout
Gemini
à
3.
fait le
Gemini
même
3
au
is the
niveau de
strongest model in the world for
l'analyse globale.
multimodality and reasoning.
Bien
It's
sûr.
our most
Et
intelligent
puis,
model and
pour
helps you le
with any
coup,
idea of life,
c'est
start
pas
today.
que je dirais pas forcément que l'un va être meilleur que l'autre, c'est qu'ils vont pas aller chercher les mêmes choses et peut-être qu'il y aura du bon à aller chercher dans chaque aussi. Donc
Ouais, alors,
Alors, je.
après, tu n'auras pas le même niveau d'expertise. Tu vois, par exemple, là, je te parlais du bouquin que je suis en train d'écrire. Je lui ai filé les 300 pages, paf, à Claude Cowork, parce que je trouve que. Alors, c'est un. Bon, on en discutera tout à l'heure, mais il m'a fait de très bonnes suggestions. Il a détecté les erreurs. J'avais oublié une page dans le bouquin et tout ça. Et il m'a dit, hey, il manquerait pas quelque chose ici. Il me dit, ah, tiens, ces deux chapitres-là sont un petit peu similaires, etc. Je trouve que c'est bien. Mais quand je lui dis, mais. Qu'est-ce que tu rajouterais en plus en tant qu'expert marketing? Et en fait, finalement, il m'a sorti des trucs assez plats. Et en fait,
Ouais.
c'est très bien pour débuter. Et si on revient, on reboucle, ça
Est-ce
partie d'Andy.
que c'était pas parce que justement il connaissait pas encore suffisamment aussi? Parce que moi, tu vois, quand je demande à une IA, ChatGPT, qui depuis 3 ans bosse énormément avec nous et que je lui donne un appel d'offres, elle me dit clairement est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pas pour nous, et est-ce qu'on a une plus-value à y répondre ou pas par rapport à tout ce qu'elle sait, tu vois. Et je trouve que je pense pas que si je l'avais donné à une IA qui me connaissait aussi bien, j'aurais eu le même travail. Alors je me dis.
Tout à fait. Ah oui, t'as bien sûr, t'as l'accumulation d'informations, de données. Mais là, moi, ce qui m'a déçu, enfin, heureusement, hein, qui me déçoit sur toutes les IA, c'est que tu as un très bon niveau. Tu as un niveau, je pense, voilà, pas expert, mais légèrement en dessous, qui te permet pour la plupart des gens de faire le job. Mais par contre, si tu veux vraiment chercher le petit truc en plus, ben, il va pas te donner ces petites astuces, cette expertise, où il va rester sur des trucs un petit peu
Ouais, faut le
plus
challenger.
classico. Voilà. Et même en le challengeant, je trouve que t'arrives pas encore tout à fait
Pas au
au
niveau.
niveau que je souhaiterais. Bon, bon, voilà. Mais en tout cas,
Okay.
faire de la B-testing de messages, enfin de messages d'objets d'email ou retravailler même une landing page, de demander, bah voilà, est-ce que tu peux m'analyser cette landing page-là? Et
Ouais,
quelque
ouais.
part, les retours sont très bons. Par exemple, je l'avais fait lorsque j'ai fait une landing page pour un webinaire il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu améliorais là-dessus? Et puis, il m'a fait 3-4 trucs. Je dis, oh putain, mais c'est vrai. Ouais, j'y avais pas pensé. Et oui, t'as raison. Ouais, t'as pas mis des témoignages suffisamment en avant. Je leur ai dit, ah ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, non mais c'est clair, c'est là-dessus, c'est vraiment un game changer. Je reviens sur ta définition initiale parce qu'il y a un truc que moi j'ai tendance à dire quand même à mes étudiants, c'est que pour moi une stratégie de gros hacking, à partir du moment où tout le monde le fait, c'est plus du gros hacking.
Au-delà de ça, c'est que quand tout le monde le fait, ça marche beaucoup moins bien. Par exemple,
Bah,
là, tu
c'est
vois,
sûr,
il
bah,
y a, y
évidemment.
avait LinkedIn. Les premières années, personne ou presque n'envoyait de direct message. Et donc, en fait, tu avais un boulevard devant toi. Les gens, ils te répondaient, etc. Maintenant, les gens, ils sont harcelés. Donc, ça marche beaucoup moins bien. Si tu veux faire la
Oui.
différence, il faut créer du lien. Cette création de lien, moi, je le fais, par exemple, tous les jours, je demande à mon assistante d'aller souhaiter les anniversaires de tous mes contacts LinkedIn, bon anniversaire, bon changement de poste, etc., etc. Puis après, derrière, c'est moi qui agis parce que, comme toute sorte d'automatisation en délégation avec une assistante offshore ou en fait avec de l'IA, il faut faire attention à garder cet aspect humain parce qu'autrement,
Bien
ça
sûr.
se ressent encore un petit peu, même si les IA
Clairement.
sont très très bonnes. Et
C'est
en
sûr.
créant ce lien-là, t'es pas juste le gars qui envoie de l'email pour un message, pour un webinaire, pour ceci, pour cela. C'est le gars, en fait, qui, quelque part, bah, te souhaite un bon anniversaire, même si, bon, tu t'en fous un petit peu, mais ça change un peu quand tu as un flux de conversation et que tu as message promo 2, 3, 4, 5, 6. Et
Oui,
moi, je vois.
puis quand il va regarder tes coms, il va avoir l'impression d'avoir une plus de proximité aussi, donc extrêmement important.
Ouais, il faut pas oublier que dans réseaux sociaux, il y a social. Il y a pas que réseau.
Exactement.
Et quelque
Exactement.
part, les gens, enfin, les gens comme moi, hein, quelqu'un qui va juste m'envoyer des messages pour me dire, tiens, va, fais ceci, fais cela, à la fin, bon, t'es bien gentil, mais je suis pas une carte de crédit sur patte, quoi. Donc, cet aspect authenticité, je pense, c'est ce qui va véritablement faire la différence dans cette masse de contenu, dans cette expertise qui est maintenant devenue grand public, c'est comment je vais, moi, faire la différence sur l'authenticité. Par exemple, tu vois, là, j'ai fait un salon, là, la semaine dernière, 3 jours sur le salon All for Customer. Donc, on a fait des conférences avec des retours d'expérience terrain, etc. Donc, ça, c'est
Plein de
intéressant.
photos
Plein
avec
de
les gens
photos avec
aussi.
les gens aussi. Ouais, et donc, voilà, c'est le deuxième point, c'est que lors de ce salon, ce que je fais, c'est que je fais des selfies. avec toutes les personnes que je connais un peu, consultants, machin. Alors, les gens que je connais pas trop, c'est un peu dur, mais tu vois, je fais des petits selfies et puis tac, ça fait au moins 4-5 ans, ouais, 3-4 ans, ouais, 3-4 ans que je fais, oh, peut-être un peu plus. Et sur tous les salons, je le fais. Ce qui fait qu'avec ces petits selfies, en fait, tu crées du lien, tu tagues les personnes. Alors, au début, je fais mon petit résumé de conférence et puis après, je dis, tiens, c'était un plaisir de faire des belles rencontres avec telle personne. Et puis après, maintenant, c'est devenu un petit réflexe. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, un mec me dit, hey, est-ce que moi aussi, je pourrais avoir mon petit selfie. Et tu vois, c'est des publications qui ont certes peu de valeur ajoutée, mais qui créent du lien, qui créent en fait du
Oui, bien sûr.
relationnel, qui créent de l'authenticité. Et en fait, quelque part, bah, ça fait du bien en fait de se voir en vrai, parce que quand toi, tu as discuté avec quelqu'un en face à face, tu as un souvenir. Mais quand tu as pris une photo, quand tu as pris quelque chose comme ça, les gens s'en souviennent un peu plus. Tu crées plus de liens, plus de. C'est comme dans une soirée. Tu peux passer une bonne soirée avec quelqu'un.
Évidemment.
Quand tu as pris des photos, tu dis, ah ouais, c'était sympa l'année dernière, c'était sympa ce truc-là. Donc, cette création de liens et cette authenticité sont clés avec le deuxième phénomène, qui est pour moi la starification. La starification, c'est vraiment le truc qu'il faut surtout pas louper maintenant. C'est-à-dire que le marketing, la vente, tout, enfin, tout va avec l'intelligence artificielle, ça a accéléré ce phénomène de starification, qui est que, comme dans l'industrie musicale, il y a à peu près 5 à 10% des artistes qui font 90% des ventes, et il y a 80% des artistes qui font 5 ou 10% des ventes. Et ben, dans le marketing, dans la vente ou ailleurs, ben, en fait, si t'es pas dans le top of mind, si t'es pas dans le 5, top 5 en fait des personnes, tu vas disparaître. Et donc, c'est pour ça que il faut absolument travailler sa segmentation, sa visibilité et devenir.
En parlant de ça, tu as un knowledge card, un knowledge people, quelque chose sur Google, parce que toi, tu es auteur officiellement, donc tu peux facilement avoir ça.
Alors, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelqu'un qui me dit, mais Fred, tu devrais créer ta page Wikipédia. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Alors, j'avais tenté, quoi, il y a quelques années que ça, mais j'avais été shooté. Même, j'ai essayé de mettre sur la page Gross Hacking mon bouquin Gross Hacking. Et bon, j'avais tenté une fois ou deux, mais je t'ai fait shooter à chaque fois. Alors que pourtant, c'est la troisième édition du bouquin. On en a vendu 10 000 exemplaires et tout ça. Mais bon, tu sais ce que c'est, Wikipédia, ils sont un peu puristes
C'est
sur.
chiant. Ah oui, je sais bien. Ah, je sais. J'ai du mal à le faire pour. On a du mal à le faire pour les clients et même pour nous. Hein. On l'a eu à un moment donné. Et puis finalement, on a choisi de rester en source pour l'instant. Mais je pense que ça fera vraiment une grosse différence à partir du moment où, comme si tu fais du personal branding, je pense que ça fera une différence.
Ouais, mais c'est un vrai sujet parce que tu vois, là, tu vois, moi je travaille avec quelques boîtes également bah, qui me demandent en fait de les aider sur certains trucs, même sur Eloquent. Moi je vois que l'article de blog, le contenu reste quand même assez important si tu veux être cité en référence dans les IA génératives, en particulier ChatGPT et consorts. Donc en fait, moi ma stratégie là-dessus, c'est continuer à publier sur mon blog, même si je le fais beaucoup moins qu'auparavant. Avant, toujours allier rédaction IA, en particulier résumé de conversation comme on le fait là. Et,
Alors,
et...
il y a deux sons de cloche là-dessus parce que effectivement, moi j'ai arrêté de faire des articles de blog il y a 2 ans quand j'ai vu que le contenu informationnel était désindexé. Mais pour avoir fait plein de tests depuis, effectivement, si tu travailles le bas de tunnel uniquement dans tes articles de blog, ça peut marcher. Donc les comparatifs, ce que les gens vont chercher, qui va demander une contre-vérification un peu à droite à gauche et que les IA peuvent aimer. Par contre, moi dernièrement, j'ai repris les articles sur LinkedIn depuis qu'on sait que LinkedIn fait partie des éléments poussés par les IA d'une manière générale et les auteurs
Ben, je
de
suis
l'article.
d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, sur LinkedIn, je fais tout. Alors, c'est ma stratégie à moi depuis des années, que ce soit sur le blog ou sur LinkedIn ou les autres canaux, je fais des trucs longs. Parce qu'en fait, moi, alors, on dit toujours, alors je dis tout le temps, le temps des gens est précieux. Avec cette déluge d'informations, cette infocalypse, il faut en fait respecter le temps des gens et pas en faire des tonnes et des tartines, parce que justement, l'IA permet d'en faire des tonnes et des tartines. Néanmoins, moi, j'aime bien avoir des contenus qui soient complets, où on en prenne vraiment des informations. Et c'est pour ça, en fait, que sur mes contenus LinkedIn et aussi bien les articles de blog, j'ai des contenus assez longs qui peuvent être repris. Et assez souvent, j'essaye de mettre un lien quand même vers mon blog, vers mon site
Ouais.
internet, vers des bonus pour bah, reprendre un peu de ce trafic. Même si, tu vois, c'est pas génial, génial en termes de liens. Si je regarde d'ailleurs, tiens, je vais aller en live là, faire un petit test et te dire, hop, sur un article là, qui a bien marché. Bah, d'ailleurs, c'était un truc qui est assez intéressant. C'est un post sponsorisé avec LinkedIn Tough Leader Ads. Tu sais, c'est le truc où tu peux sponsoriser un post, en fait, qui, là, c'est un post pour un webinaire. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc, tu vois, c'est un post qui a fait quand même, en payant, hein, parce que le post, autrement, il n'aurait pas décollé. C'est un post qui a fait, là, on est à 186 387 impressions. Donc, quasiment 200 000 impressions. Et dedans, tu as que 52 clics sur le lien de la publication. Donc,
Ah ouais,
t'imagines
c'est là.
200 000 impressions, 50. Alors après, c'est un webinaire qui est très pointu, qui est très métier, où tu attires pas du grand public. C'est vraiment du pas de tonnelle, comme tu le dis. Néanmoins, voilà, c'est faire du lien, ramener les gens vers tes espaces à toi, pour moi, c'est important parce que autrement, qu'est-ce que tu fais? Tu as un éditeur de contenu du média et tu publies, tu es à la course à la publication. Ce que moi, je ne recommande pas du tout.
Ouais, bien sûr.
Et le fait de pouvoir
Ouais.
mettre ces petites URL dans tes publications bah, permet aussi de
Ouais,
dire
bien
aussi,
sûr.
ah, hey, regarde, ce
Complètement.
truc-là, il est intéressant, quoi. Après, bon, c'est pas simple d'être repris dans les IA. Tu peux faire vraiment deux choix. Soit tu fais du contenu vraiment exhaustif expert, du témoignage, des choses comme ça. Soit en fait, tu fais de l'actu vraiment actu hyper chaude. Quelle est la meilleure IA pour faire des photos en 2026, machin,
Oui,
etc.
voilà, faut vraiment avoir une. Non, c'est ça qui a marché d'ailleurs. J'ai fait un test, j'avais fait un comparatif des trois IA de création, de génération de vidéos. Et pendant 3 mois, ça a vachement marché parce que c'était une recherche. Mais je trouve que d'abord, ça servait à rien pour. Ça, c'était pas forcément les gens qui m'intéressaient qui venaient sur cet article-là. Et en plus, c'était très éphémère en fait. Vu qu'en l'occurrence, Sora vient de fermer, à mon avis, c'est fini. Tu vois, l'article, il était là pour 2 mois. Et c'était juste, je voulais juste vérifier si le contenu informationnel fonctionnait encore parce que Google a désindexé beaucoup du contenu informationnel et que si je regarde la proportion de tous les sites qu'on gère, il doit y avoir même pas 20% de leurs articles de blog qui sont référencés et qui sortent dans les impressions. Donc,
Qui ont du trafic. Bah, en fait, moi je l'ai vu, hein, c'est pour ça qu'il y a 2-3 ans, un peu comme toi, j'ai basculé en fait du blog qui était vraiment mon cœur de cible. En plus, moi j'aime bien écrire, qui était vraiment mon cœur de cible, à publier minimum un article par semaine. Et là, en fait, j'ai basculé sur LinkedIn parce que je voyais bien que le trafic commençait à changer. Alors que sur LinkedIn, en fait, tu as vraiment de l'interaction, tu as de l'échange, tu as du vrai commentaire. En SEO, tu avais quand même beaucoup de gens, comme tu l'as dit, qui sont hors cible, qui sont pas forcément intéressés. Et tu avais une chute énorme du trafic. Moi, j'ai un de mes amis qui est, comment dire, qui manage en fait un réseau à peu près de 400 sites de création de contenu. Et il m'a dit en fait que bah, il y a une avalanche quoi. Si t'es pas sur les sites frais, les sites d'actu ou sur la longue traîne comme tu l'as dit, bah, tu perds beaucoup. C'est devenu très compliqué. Et pour moi, l'intelligence artificielle est quand même arrivée à un niveau où pour du contenu de manière assez simple, assez classique,
Ben
ça fait
oui,
quand
ça
même
sert à
pas
rien, bien
mal le
sûr.
job. T'as pas le contenu
Bien sûr, bien
d'expertise,
sûr,
t'as
bien
pas
sûr.
pour aller plus loin, mais tu vois, moi j'utilise régulièrement Gemini quand je suis bloqué avec Salesforce parce que sincèrement, moi j'ai un de mes collègues qui est informaticien, qui est développeur. Avant, quand j'étais bloqué, je disais, hey Nico, est-ce que tu peux pas m'aider pour ce script-là ou ce process-là? C'est un peu compliqué. Maintenant, je demande à Gemini et Gemini est
Ben
devenu
oui.
mon assistant. C'est assez
Cool.
fort et c'est assez fou. Là, tu vois, on parlait d'IA tout à l'heure. Tu vois, je teste depuis déjà quelques temps Claude Cowork et je suis quand même assez impressionné. J'ai mon assistante à Madagascar qui est à titre personnel qui bosse pour moi. Ça fait 6-7 ans. Et tu vois, la semaine dernière, toujours dans le cadre de mon bouquin, j'ai demandé, je lui ai dit, bah tiens, Sabrina, est-ce que tu peux transférer tout ce qu'on a fait sur Google Slide? sur en fait un Word parce que l'éditeur préfère du Word. Il faudrait me copier-coller tous les slides avec les différents paragraphes. Les images, tu les mets dedans. Ensuite, tu mets l'URL qui est dans les commentaires. Tu comptes le nombre de mots et tu me fais ça. D'accord? Et elle me dit, ah bah non, désolé, c'est un jour férié à Madagascar. Là, je ne serai pas dispo avant lundi. Ah, je dis, merde, est-ce que je devais rendre une première version avec un nombre de mots? Je dis, je ne voulais quand même pas me taper ça. Et donc, j'ai pris Code Cowork. Je lui ai dit, bah, tiens, t'as un Google Slide qui est là. Est-ce que tu peux mettre ça dans le Word? Regarde, j'ai mis ici le nombre de mots, le machin. Et en fait, bah, il a tourné pendant, ouais, je pense, une bonne demi-heure, hein, facile. Mais il m'a fait un job qui était 90% bon. Alors, il y avait des erreurs, il avait oublié des pages, il avait mal compté des trucs parce que je ne lui ai pas bien expliqué, il y avait quelques petits trucs. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça faisait le job, quoi. Et tu vois, c'est assez,
Non, mais
assez impressionnant. Alors, c'est pas encore
il y
la
a
méthode
énormément.
de la panacée. Par exemple, tu vois, là, j'ai utilisé pour essayer de faire des carousels. Je lui ai dit, là, prends mon article de blog qui est là et fais-moi un carrousel LinkedIn. Et je lui ai filé mon canevas. Hein. Je lui ai dit, bah tiens, et tu t'inspires de ça. Donc, en fait, là, il a mis une demi-heure, 45 minutes. Il a fait un job, mais qui était pour moi pas satisfaisant. Alors, peut-être que je l'ai pas assez bien briefé. Peut-être que c'était un premier niveau. C'était assez sympa.
Je préfère Notebook LM pour les carrousels. Moi, j'utilise la fonctionnalité présentation et tu peux en faire une sorte de carrousel à la place.
Ce que j'aime bien, c'est tu prends Gemini. Alors, je sais pas s'il faut pas passer par la 3 Pro, mais tu lui files ton article de blog et tu lui dis, bah, fais-moi une image comme ça, ta, ta, ta. Et en fait, il va pas te faire un carrousel, il va te faire une série d'une dizaine, une quinzaine d'images. Alors, il va se planter sur certains mots, il va se planter sur certains ordres, etc., etc. Mais teste un peu, tu verras, le rendu est quand même assez joli parce qu'après, tu récupères les images, tu les mets dans ton Canva, bien sûr, tu dois retoucher, supprimer des mots, machin, etc. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Alors, ça fait 13 IA. Parce que c'est du Gemini et les images sont assez reconnaissables, comme du ChatGPT, hein, tu as quand même un style qui est classique. Néanmoins, je trouvais que ça faisait le job. Alors, je n'ai pas réutilisé depuis, mais tu as raison, Notebook LM est très très bon sur cette partie analyse de notre.
On va revenir, si ça t'embête pas, sur la notion de gros hacking. J'avais quelques questions quand même, notamment sur la mutation des canaux d'acquisition, donc en lien donc forcément avec le gros. Selon toi, avec l'émergence des moteurs conversationnels, qui sont ceux qu'on utilise au quotidien aujourd'hui, et de la recherche assistée donc par IA, comment évolue la logique d'acquisition en 2026? Aujourd'hui, le lien avec le gros, d'après toi, comment est-ce qu'il se situe?
Alors, pour moi déjà, d'une manière assez globale, le contexte économique et le fait que les outils d'IA ou autres sont de plus en plus accessibles à tout le monde, tu vois que tu as quand même beaucoup, beaucoup moins de prospects et les cycles de décision dans le B2B sont devenus beaucoup plus larges, ça glisse en fait régulièrement et ça dérape un peu. Donc en fait, tu te retrouves dans un contexte où tu as moins de prospects qui sont sursollicités. Et donc, c'est devenu vraiment plus sur la personnalisation et l'efficacité. Il faut, pour moi, plus en fait il y a d'IA, plus tu dois faire quelque chose qui doit être pertinent. Et comme je le disais, il faut respecter le temps des personnes et leur apporter quelque chose. Un exemple concret. On a organisé une matinale physique dédiée aux décideurs de la relation client dans le domaine transport, logistique, énergie. Alors, on a notre base à nous qui fait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes. On a envoyé, mais pas sur que ce secteur-là, mais que sur la globalité des secteurs. Et donc, on a sélectionné dans cette base-là les personnes transport, énergie, logistique. Et donc, en fait, on a envoyé un premier message, genre, tiens, venez à notre matinale transport, énergie, logistique, c'est génial, etc. On va faire un truc, ta, 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 ta. Très peu d'inscrits. Je dis pas un échec, mais presque. Et là, en fait, on se dit, merde, il y a quelque chose qui va pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on resegmente notre base. Et là, en fait, on utilise aussi l'IA. Donc, avec l'IA, tu vas pouvoir dire, hey, c'est dans toute ma base là, dis-moi ceux qui sont dans l'énergie, dis-moi qui sont dans le transport. Parce que on avait une partie de la base qui n'était pas bien renseignée. Et donc, en fait, on a pris ça pour renseigner les entreprises, en tiens, ça c'est dans tel secteur. Et on a renvoyé, grosso modo, 5-6 messages qui étaient hyper sectorisés. Et on a dit, hey, venez là-dessus, il y a le témoignage de telle personne. Donc, en fait, de votre secteur à vous là-dessus, telle entreprise parle de ça, fait un retour d'expérience là-dessus. Et on a dit, bah tiens, c'est super important dans votre secteur pour tel truc, ta 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 ta. Et là, on a fait bien sûr le carton plein dans le remplissage. Mais ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Puisque je te parle du CX Summit, notre événement annuel, on s'est dit, hey, on va faire la même chose. Donc on a découpé notre base à peu près en une dizaine ou une quinzaine de secteurs et on a envoyé le message. Et sauf qu'en fait là, comme le message était beaucoup plus générique, c'était pas un événement spécial, transport de l'énergie ou etc., etc. Bah les gens ont eu beaucoup moins d'attrait pour cette thématique-là. Parfois on pouvait citer une marque qui intervenait et là, oui, les gens venaient. Parfois on pouvait pas citer une marque et là à ce moment-là, ben forcément les gens se disaient mais non mais c'est pas pour moi ou c'est pas exactement pour moi. Donc toutes les vérités en fait sont pas valables. Il faut véritablement se dire selon le contexte, selon le produit, selon la cible, il faut l'adapter. Donc voilà, pour moi ce qui change vraiment c'est que tu peux plus te permettre d'avoir un contenu, un message, une page, etc., etc., qui ne soit pas pertinente, puisque c'est devenu tellement simple de faire
Ben
des choses. Toi, par exemple, toi, moi,
on
j'étais
peut
prof
rentrer là,
pendant des années en école de commerce et j'avais un module qui était le copywriting. Donc, en 4 heures, il fallait former les étudiants sur les bases du copywriting et comment créer une landing page. Autant te dire que, bon, quand ils arrivaient à transformer une caractéristique en bénéfice, j'étais déjà très content et ça faisait partie de l'examen final. Et avec l'IA, mais finalement, tu t'appliques les méthodes AIDA, PASS, Pastore, etc. en quelques minutes. Et finalement, tu as une augmentation du niveau moyen de compétences enfin, de compétences qui augmentent et le niveau moyen de l'exigence des clients qui augmentait aussi. Donc, tu peux plus te permettre de faire comme avant. Et comme tu disais, les choses qui sont trop utilisées, en fait, ne marchent plus. Et c'est vrai que le lien en disant hey, j'ai vu vous très bien tel truc, prenez un rendez-vous dans mon calendrier, ça ne marche plus.
Heureusement en plus.
Ça a marché au fil d'un temps.
Enfin ça a marché, ouais. Bah, pour justement, alors ça fait le lien avec l'outil que je te propose de montrer effectivement à ta communauté aussi et qui ramène un peu un semblant on va dire, grosse slash IA slash setting, on va dire, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA en prospection et en grosse d'une manière générale, parce que aujourd'hui on peut utiliser, bah, en l'occurrence dans l'exercice, c'est Gemini qu'on associe à un Google Sheet, et à partir du moment où on lui donne des prompts détaillés, on va pouvoir s'amuser à demander pour telle personne de personnaliser un message à partir de la vérification de qu'est-ce qu'il y a écrit sur son profil LinkedIn, par exemple. Où on va lui dire ce type de profession, parce que je peux aller chercher aussi grâce à l'IA le type de profession par rapport au profil, quels sont ses pain points, quels sont ses éléments. Et pour le coup, bah, effectivement, nous, on a créé cet outil-là que je te propose de montrer aussi, et qu'on montre aussi nous dans notre programme en ligne, et qui va nous permettre et de gagner du temps, et aussi de tester une nouvelle sorte de growth hacking sur lequel je pense qu'il ne faut pas tout de suite scaler. Parce qu'il faut d'abord passer en phase test.
Bien sûr, parce qu'en fait, le problème, c'est de vouloir faire de la masse, de la masse, de la
Oui.
masse. Et en fait, je me rends compte que ça marche pas forcément. Moi, j'ai toujours tendance à dire, c'est ce qu'ils disent en growth hacking, d'ailleurs, do things that don't scale au départ. Donc, tu essayes de faire des choses qui, tu fais à la mano. Et une fois que tu l'as fait à la mano pendant un
C'est ça.
certain temps et tu vois que ça marche, ok. Tu
C'est ça.
automatises parce qu'autrement, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Tu mets plusieurs années à construire une réputation et tu mets 5 minutes à.
Exactement, mais c'est ce que je dis depuis le début. Ceux qui font n'importe quoi avec l'automatisation, je leur dis, mais les gars, vous vous rendez compte que vous discréditez votre nom là? C'est
Peut marcher pendant un certain temps. C'est sur une cible qui. C'est comme toi, un restaurateur. Un restaurateur qui est au fin fond de la Creuse et qui n'a pas beaucoup de clients et qui commence à faire de la mauvaise bouffe, le bouche à oreille se fait et puis les gens viennent plus. Si tu es McDo au pied de la Tour
exactement.
Eiffel et il y a un flot de gens qui arrivent dans le sop, bah, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est. En tout cas, dans mon domaine, dans le B2B, c'est ce qu'on échangeait un petit peu en off avant l'interview. Nous, en fait, on est sur une cible qui est entre 5 000 et 15 000 personnes maximum en France qui sont dans notre cible. On ne peut pas se griller sur 5 000 ou 15 000 personnes parce qu'après, il n'y
Exactement.
en a plus.
Alors,
Et ça vient ensuite, nous on est sur les grands comptes, dans le domaine de la relation client-expérience client. Et donc, c'est important. Et c'est ce que tu me disais en amont de la préparation de cet échange, c'est que on voit bien que avec cette saturation des contenus, etc., il faut penser omnicanal. Omnicanal, nous on a testé des trucs, du SMS, du RCS, du WhatsApp, un peu de tout, mais il faut aussi revenir sur des choses qui sont un peu plus basico-basiques, comme par exemple les interactions one-to-one. Nous, tu vois, parmi les commerciaux, il y en a 5-6, et ben en fait, ils se passent ils font à tour de rôle, hein, en fait, hein. Ils participent à des matinales, ils participent à des déjeuners, à des dîners, etc., etc., de syndicats, d'associations, etc., etc., pour en fait être mémorisé au bon moment. Mais faire ça, il faut encore penser long terme. C'est-à-dire que il faut récupérer les coordonnées des personnes, il faut les mettre dans la base, il faut les ajouter sur LinkedIn. Si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas un parcours prospect, bah les gens vont pas se souvenir de toi la prochaine fois, sauf si tu les vois régulièrement. C'est pour ça que moi je dis toujours, tu dois travailler sur un parcours prospect. Chez nous, en fait, on a un parcours prospect qui est que lorsqu'une personne télécharge un contenu, participe à un salon, il y a par exemple trois appels téléphoniques. Alors nous, on cible d'abord ABCD. Donc A, c'est les top managers, décideurs, les B, c'est les seconds, les C, bon, on va les traiter avec le marketing, les D, c'est bon, on va les enlever de la base parce qu'ils ne correspondent pas, ils n'ont pas de budget, ils sont des étudiants, etc., etc. Et sur les AB, une partie du C, et ben en fait, les commerciaux doivent d'abord faire un appel téléphonique, une invitation LinkedIn, ensuite ils doivent envoyer un message et ils doivent faire un appel, ensuite ils doivent faire un appel et laisser un message sur répondeur. En fait, il y a toute une technique, et puis après.
Ouais, tu fais ton arbre à décision. Ouais.
Voilà. Et après, tu as d'autres techniques. Moi, là, je te donne une technique que l'on fait nous, mais il y a d'autres personnes que je connais qui travaillent plus sur du ciblage LinkedIn. C'est-à-dire qu'ils ciblent, comme tu l'as dit tout à l'heure, un type de profil. Ils essayent d'avoir des interactions, que ce soit commentaires, like, machin, etc. etc. Direct message, ça mord pas, je passe au suivant. Il peut y avoir plusieurs
Ouais.
techniques. Il n'y a pas qu'une seule. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule solution. Il faut l'adapter selon ses pays.
C'est exactement la même chose qu'un workflow, effectivement, c'est ce que je disais à mes étudiants sur le module. Je disais, il n'y a pas il n'y a pas de mauvais workflow, il y a juste des workflows différents qu'on veut tester, et il y en a un qui va marcher peut-être plus qu'un autre, et qu'il ne faut pas avoir peur de se planter pour faire du gros, parce que sinon, bah, on ne fait rien en fait.
Ouais, exactement.
Je vais terminer parce que je sais que ton temps est précieux. Je vais terminer avec une autre question qui m'intéresse aussi. C'est justement la vision stratégique. Si quelqu'un, voilà, même toi par exemple, si tu devais reconstruire aujourd'hui une stratégie de growth à partir de rien en 2026 et que tu sais maintenant qu'il y a les IA, alors que tous les deux on a lancé nos business avant, donc forcément que on n'a pas été concerné par ça. Mais si quelqu'un se lançait là, quels seraient les trois piliers prioritaires en 2026?
Alors, ça, c'est vraiment super intéressant comme question. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, tu as tellement de choix sur les canaux, tu as tellement de choix sur les méthodes d'acquisition que le problème, c'est justement de dire, mais comment je peux faire? Alors, déjà, bon, je me placerai comme dans le cas du B2B, hein, et je me placerai, allez, on va dire, dans le cas pas un truc sur les méga grands comptes, parce que c'est des cycles de décision importants, mais on va dire que je me mets dans le B2B, je vends à des PME ou des grandes entreprises, mais pas des multinationales. Donc moi, la première chose, bien sûr, j'irai exploiter le canal numéro un qui est LinkedIn là-dessus. Alors, bien sûr, je créerai un compte, je préparerai de la publication, mais ça sert à rien. On va dire, c'est 1, 2, 5% des prospects que tu vas pouvoir générer. Je choisirai bien sûr un angle très précis où je me dirais, bah voilà, je m'adresse par exemple aux entreprises qui veulent mettre en place de l'IA, aux consultants qui sont, je sais pas, coach et qui ont besoin de. Enfin bref, je choisirais vraiment ma cible. Et je dirais, bah là, je vais défendre et aider ces entreprises à faire face à telle chose. Je commencerai bien sûr à les ajouter régulièrement sur LinkedIn, faire mon ciblage. Ensuite, j'utiliserai les techniques de cold mailing. C'est-à-dire que ces personnes-là, une fois que j'ai un cas client qui est intéressant, je dirais, tiens, et regarde, il y a le truc là qui est intéressant, je ferai ça. Ensuite, j'enchaînerai sur du webinaire. Donc, tiens, voilà, et j'irai chercher l'audience où elle est. C'est-à-dire que je demanderai à des influenceurs, je demanderai à des partenaires, je demanderai à des personnes qui ont écrit des bouquins, etc., qui ont une audience, une visibilité, de faire un webinaire avec moi où je ferai des interviews, comme on le fait ensemble. Bref, j'irai chercher l'audience où elle est de manière importante. Troisième point, j'irai aussi faire de l'acquisition en payant, parce que le problème, c'est que si tu comptes que sur le gratuit, tu y arriveras très lentement. et ça mettra beaucoup de temps. Donc à ce
D'accord.
moment-là, j'irai faire un peu de publicité pour donner de la visibilité, soit des contenus, soit faire de la publicité payante sur du ciblage, etc. Parce que en fait, j'ai besoin d'acquérir des prospects. Quatrième point, j'irai travailler sur les partenariats. Est-ce que je peux travailler avec quelqu'un qui a de la visibilité, un salon? Est-ce que je peux prendre de la prise de parole? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je, parmi les gens que je connais, il n'y a pas des gens qui ont une communauté qui ils sont d'accord pour faire un partenariat avec moi. Par exemple, j'ai vu le cas il n'y a pas très longtemps, il y avait un de mes anciens collègues qui s'est lancé en tant que consultant, sauf qu'en fait, il avait même pas un client, enfin à peine, il avait un demi-client, on va dire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais attends, lance un webinaire, tu nous invites nous, tu invites deux autres personnes, tu as invité une grande entreprise très connue, une multinationale, et un consultant non concurrent, et on a monté ensemble un webinaire. Chacun a parlé sur sa cible, et en fait, grâce à ça, il a réussi à faire quoi, 200, 300 inscrits sur son webinaire. Alors, c'était un sujet aussi tendance, machin, etc., etc. Donc, voilà. Donc, pour résumer, voilà. Choisir les bonnes personnes, les cibler sur LinkedIn, les ajouter, faire un petit peu de cold mailing avec des cas clients, faire des partenariats, travailler sur l'influence et la micro-influence, faire de la publicité. Je pense que c'est quelque chose qui est clé, et travailler le contenu. Alors pourquoi je l'ai pas mis en premier alors que je l'aurais mis en premier il y a quelques années? Parce que le contenu est devenu compliqué à faire, mais je mettrai quand même en cinquième pilier le contenu, et par contre j'irai vraiment sur quelque chose de tranchant, rechercher un petit peu la polémique, rechercher, mais pas non plus la polémique dans le mauvais sens, mais chercher des
Ouais,
choses qui font réagir, quelque chose qui font chercher de l'émotion pour sortir du lot. Donc si j'avais cinq choses, je pense que je partirais là-dessus, qui sont assez classiques somme toute, hein, mais
mais moi, je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est surtout de conserver l'idée que c'est complémentaire. Parce qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, ça fait 1 an et demi que je poste sur les réseaux sociaux, ça donne rien. Mais c'est sûr que ça donne rien si tu fais juste ça. C'est une complémentarité de plein de choses, en fait.
Bah, en fait,
Et
surtout que les posts LinkedIn, c'est affiché à. Alors, si tu comptes une publication un peu classique, tu en fais 500 à 1000 vues. Ok, tu as 10 000 contacts. Et en plus, ce n'est pas tes contacts qui l'ont vu. Donc, exploite ta base. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, tu as une fonctionnalité d'export dans LinkedIn. Tu vas dans exporter mes ar tu vas dans les archives, préférences et confidentialité, exporter mes archives. Tac, tu récupères ton fichier Excel avec tes 5-10 000 connexions. Tu choisis selon les posts les personnes qui sont intéressantes et tu leur envoies un direct message avec les outils LinkedIn.
C'était super de pouvoir échanger avec toi. Je vais rappeler la dernière édition donc de ton livre que j'avais donc moi sur la première édition. On va le montrer justement si jamais les gens veulent se le procurer encore. C'est plein de conseils intéressants et activables assez facilement d'ailleurs hein, pour beaucoup. Et sinon aussi donc rappeler que nous en l'occurrence on a un outil qu'on donne à ta base qui est alors on le montre mais au pire je pense qu'on trouvera un moyen de le donner si d'autres personnes le réclament également qui est une automatisation slash plutôt de prospection. Et bah, il va me rester à te remercier en tout cas du temps que tu m'as dédié. Je vais te souhaiter bonne chance pour les événements dont tu as parlé. Si tu veux aussi, n'hésite pas à me transférer les infos, on pourra les mettre en commentaire ou en description.
Plaisir, n'hésitez pas. Nous, en fait, c'est toute la différence entre un commercial et marketing. Le commercial, en fait, il a une vision très court terme. Est-ce que cette personne-là va me rapporter, va être intéressée par un produit à horizon 3 mois? Le marketing, moi, je le dis toujours, on a une vision à 1 an, à 2 ans. OK, cette personne, elle n'est pas intéressée. OK, elle est peut-être en transition, en cherche du boulot. OK, c'est un consultant, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ben, elle aura quelque chose pour nous. Donc, il faut rester en mémoire, créer du lien et activer la connaissance au bon moment.
Bon, bah en tout cas, merci beaucoup pour ces quelques minutes que tu m'as accordées. On va te suivre sur les réseaux également, hein, puisque tu produis beaucoup de contenu. Et abonnez-vous à la newsletter aussi de Frédéric, le cas échéant. Et on espère que vous avez passé un bon moment en tout cas.
Bye.
Salut!